Vous écoutez RTL.
RTL, il est 15h04, on est fait pour s'entendre. Bonjour Flavie Flamand.
Bonjour Olivia Loré. Olivia, je vous rends l'antenne à 16h pour un prochain point sur l'actu.
Avec plaisir,
à tout à l'heure. Merci. Aujourd'hui, on vous informe sur les intolérances alimentaires, on vous explique comment les détecter et on vous propose toutes les alternatives. Bref, une émission qui peut changer beaucoup de choses pour vous. Alors à tout de suite.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur RTL et place à la musique.
L'été sera chaud, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les masques.
Voilà, on avait envie de commencer comme ça parce que les températures remontent. Certains d'entre vous nous écoutent déjà depuis leur lieu de vacances. D'autres n'ont pas encore cette chance. Où que vous soyez, vous êtes les bienvenus sur RTL et plus particulièrement dans En effet pour s'entendre. Nos échanges en direct vont nous emmener jusqu'à 16h et je vous attends au 3210 comme chaque jour et sur les réseaux sociaux pour toutes vos questions car c'est une émission utile et de santé que nous vous proposons aujourd'hui. Place au sujet de cet après-midi. Vous êtes sujet aux maux de ventre, aux sinusites, aux migraines. Vous n'en trouvez pas la cause. Et si c'était une question d'intolérance alimentaire? De plus en plus de Français sont concernés. Gluten, œufs, farine et j'en passe. Alors quelle est la différence entre une allergie et une intolérance alimentaire? Quels sont les symptômes et les conséquences sur notre santé? Existe-t-il des alternatives pour manger sans se priver? On en parle avec nos invités. Annie Schwab, bonjour.
Flavie Flamand, bonjour.
Soyez la bienvenue Annie, merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
Vous êtes directrice de la rédaction du magazine Maxi, un magazine qu'on apprécie tout particulièrement dans cette émission et qui consacre un article en tout cas aux alternatives du bien manger. C'est-à-dire qu'en fait vous répondez à ceux qui rencontrent des problèmes d'intolérance alimentaire.
Absolument, parce que c'est vrai que d'abord il y a plein d'intolérances et après bien sûr Ariane vous expliquer pourquoi on est intolérant ou hypersensible ou carrément allergique. Donc nous, comme on est un magazine qui donne des solutions, ben voilà, on essaie de dire ceux qui sont intolérants au lait, voilà ce qu'on peut faire. Ceux qui sont intolérants aux œufs, voilà ce qu'on peut, par quoi on peut les remplacer.
Voilà, c'est pas parce qu'on est intolérant qu'on doit renoncer au plaisir au fait de bien manger. Justement, le magazine Maxi nous y aide. Vous avez parlé d'Ariane, on va citer son nom aussi, Ariane Grabach. Bonjour.
Bonjour Flavie Flamand.
Vous êtes diététicienne et nutritionniste, auteur d'un ouvrage La gourmandise ne fait pas grossir chez Carnet Nord, qu'on conseille justement à nos auditeurs parce que c'est vrai que ça fait du bien d'entendre qu'on peut être gourmand et pas forcément prendre trop de kilos ou pas de kilos. Ariane Grabach, c'est quoi une intolérance alimentaire? Quelle est la différence entre l'hypersensibilité, l'intolérance et l'allergie?
Alors, l'allergie, c'est vraiment quelque chose de très grave et qui va se déclencher de façon instantanée et qui peut vraiment poser des problèmes. Ça veut dire que votre système immunitaire voit arriver quelque chose qui lui paraît extrêmement mauvais, négatif, dangereux et va tout faire pour lutter contre. Et donc, on connaît très bien des allergies, des personnes qui sont allergiques aux cacahuètes, allergiques aux fruits de mer, etc. Mmh. Et qui savent qu'ils ne doivent absolument pas en manger parce qu'ils peuvent vraiment avoir une réaction très, très, très vive. Et donc, ça, en général, c'est bien connu. Il y a les allergies qui sont vraiment de la petite enfance, il y a les allergies des adultes. Mais aujourd'hui, on emploie très souvent finalement ce mot à tort. D'accord. Et très souvent, c'est pour parler d'intolérance. Les intolérances, c'est quelque chose qui se passe au niveau du système digestif, mais qui sont quand même beaucoup moins graves que les allergies, mais qui peuvent effectivement créer des tas d'inconforts qui sont très, 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 très douloureux. Et il y a plusieurs types d'intolérances, mais effectivement, les plus connues, c'est l'intolérance au lactose. Mmh. En fait, c'est très important quand même de faire cette différence allergie-intolérance. Il n'y a pas d'allergie au sucre, différents sucres. Le lactose, c'est un sucre. Donc, il n'y a pas d'allergie au lactose, il n'y a pas d'allergie au gluten. Il y a des intolérances. Et donc, il y a, par exemple, si on prend le lactose, c'est une intolérance qui est due à un déficit d'enzymes. Il y a une enzyme. Les enzymes, c'est des petites choses qui sont là pour nous aider à digérer, à découper les molécules des aliments. Et là, il y a une enzyme qui s'appelle la lactase qui aide à digérer le lactose du lait. Si on n'a pas cette enzyme, parce que en principe, alors il y a des gens qui disent que c'est normal quand on est adulte de ne pas l'avoir. Ouais. En réalité, il y a beaucoup d'adultes dans les pays européens qui l'ont. Si on n'a pas cette enzyme, on a beaucoup de mal à digérer le lactose et d'où les difficultés de digestion, ces molécules qui ne sont pas découpées vont créer les ballonnements, les inconforts, etc. Mais ce n'est pas dangereux comme peut l'être une allergie.
Mais c'est inconfortable et on reviendra sur les symptômes pour aider nos auditeurs justement peut-être à détecter leurs intolérances.
Alors voilà, l'hypersensibilité, c'est quoi? Alors c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui par rapport au gluten. Ce n'est pas une vraie intolérance, mais c'est quand même un inconfort. Alors on va sans doute le détailler. C'est que souvent, peut-être les gluten ont changé et les intestins de beaucoup de personnes sont peut-être plus fragiles qu'avant. Donc c'est un peu la rencontre des deux, je pense, qui pose problème.
D'accord, donc ce sont des étapes en fait. Hein. C'est-à-dire que, est-ce que
c'est
l'intolérance...
C'est des états différents, c'est pas des étapes, c'est-à-dire l'un ne mène pas à l'autre.
Voilà, c'est ça, l'intolérance ne mène pas à une allergie.
En fait, on a absolument deux fois plus de chances d'être mal, quoi, c'est ça.
Voilà, exactement. Alors justement, on va essayer d'identifier tout ça avec vous et puis avec nos invités. Dans un instant, nous allons donner la parole à Marine, justement, qui, elle, est intolérante au lactose. Elle va nous expliquer un petit peu à quoi ressemble sa vie aujourd'hui. Et puis, bon, ben voilà, les alternatives, évidemment, qu'elle a trouvées à tout ça. Et puis, vous, si vous souhaitez poser des questions à Ariane Grimbach, vous n'hésitez pas, vous composez le 3210 ou vous rendez sur les réseaux sociaux. Nous sommes en direct sur RTL et on vous attend. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand.
On parle des intolérances aujourd'hui sur l'antenne d'RTL, les intolérances alimentaires, hein, parce que des intolérances, on en a dans la vie. Hein, voilà, hein, des intolérances à plein de choses, à plein de gens aussi, mais là, on parle juste des aliments. Alice qui nous écrit, il y a deux catégories, ceux qui sont allergiques et ceux qui ne le sont pas. Pour certains, c'est un effet de mode. La plupart du temps, on ne me prend pas au sérieux, mais tant pis, car je n'ai pas envie, un, de vomir, deux, de changer de couleur, trois, d'avoir des gaz et de sacrés frayeurs dans les toilettes, parce que j'aurais pioché un gâteau œuf, lait, amande. En deux mots, est-ce qu'on peut vraiment lutter Ariane Grimbach, contre les intolérances alimentaires, est-ce que c'est une mode? C'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Quel est votre point de vue de diététicienne là-dessus?
Alors là encore, ça, ne parlons pas des allergies, mais des intolérances qui se développent beaucoup aujourd'hui, c'est les intolérances. Moi, je crois qu'il faut justement sortir un peu de l'effet de mode. Je pense que c'est très important de parler des alternatives, de dire que la vie n'est pas triste si on doit éliminer des aliments, mais ça vaut quand même le coup de prendre le temps de voir si on doit vraiment les éliminer et donc beaucoup s'écouter soi. Et donc, je crois que moi, je parle souvent dans ma démarche des 4C, c'est-à-dire commencer par constater est-ce que vraiment on est mal tout le temps, on est mal avec certains aliments. Elle a visiblement repéré le lait, les amandes. Si c'est ça, elle peut expérimenter d'arrêter et voir le bénéfice qu'elle a. Et si vraiment elle identifie... Alors, c'est très important de supprimer un aliment à la fois pour avoir la bonne cible. Si vraiment elle identifie qu'elle n'est pas bien... Et eh bien, ça vaut le coup. Et le bénéfice en termes de qualité de vie est tellement important que ça vaut la peine.
Alors, les 4C, constater ?
Constater, comprendre. C'est très important de comprendre.
D'accord.
Aujourd'hui, on a tendance à changer sans comprendre.
Oui.
Et c'est ça la mode. C'est-à-dire qu'on arrête tout, on change tout, mais on n'a pas compris quelle était vraiment la cause, si c'est une sensibilité, si c'est tout autre chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de remises en cause par rapport au gluten. Et donc, on change une fois qu'on a compris ce qu'on avait vraiment, et si possible, en n'écoutant pas la mode, mais en expérimentant vraiment sur soi. Et c'est ça qui est compliqué, mais qui est important.
Le troisième, c'est ?
Donc, changer.
D'accord.
Donc, on change.
Je change.
On vérifie que ça marche. Et si ça marche... qu'on consolide, c'est-à-dire qu'on change vraiment ses habitudes.
Et le quatrième
si ça marche, c'est consolider.
On consolide, voilà, c'était consolider. Très bien, voici donc les 4 C d'Ariane Grimbach. Annie Schwab, vous qui justement êtes la directrice du magazine Maxi, est-ce que vous avez eu le sentiment aussi de répondre quelque part à des questions de mode? On en a parlé, hein, en arrivant,
oui.
C'est vrai qu'il y a la mode du sans gluten, il y a la mode du sans
On avait fait un papier, effectivement un article sur tous les régimes sans, parce que c'est vrai qu'il y a un phénomène de mode, sans sel, sans sucre, sans gluten, etc. Donc, comme dit Ariane Grimbach, je pense qu'il y en a certains pour qui c'est vraiment une réalité. Il y en a d'autres qui s'engouffrent là-dedans. Et parce qu'ils voient un rayon dans un supermarché sans gluten, ils vont
penser que c'est forcément bien.
C'est forcément mieux. Parce que, voilà, ça enlève quelque chose. Ils pensent peut-être qu'avec des fausses idées et reçues, que ça fait perdre du poids, ce qui est faux. Donc voilà, c'est ça le phénomène de mode.
Il y a tout un discours environnant sur le fait de diaboliser le gluten, de dire que c'est très mauvais pour la santé de manger du gluten. Alors, je voudrais tempérer un peu ça. C'est sûr qu'il ne faut pas diaboliser le gluten, mais c'est sûr qu'avoir une alimentation très monotone, où le matin, on mange des céréales très raffinées, le midi, on mange un sandwich, et le soir, on mange des pâtes, par exemple, ça veut dire qu'on va effectivement avoir une énorme quantité de gluten.
Une overdose de gluten.
Et ça peut vraiment, petit à petit, donc je disais, ce n'est pas dangereux, mais ça peut... enflammer l'intestin quand même petit à petit.
Néanmoins, on n'est pas obligé d'adopter un régime sans gluten pour finalement se sentir en meilleure santé. Ça n'est pas forcément une bonne idée que d'adopter
tomber
dans le panneau de la mode.
Par contre, varier davantage son alimentation, c'est ça qui est intéressant peut-être dans l'effet de mode, d'essayer peut-être d'autres céréales, d'autres graines, etc. Et d'avoir plus de variété, ça c'est intéressant.
Oui, je pense qu'il y a quand même un peu un phénomène de mode, comme vous dites toutes les deux. C'est-à-dire que qu'on dit, oh non, moi je mange sans gluten. Et dans certains restaurants, il y a maintenant
on te propose
dans les cartes.
Maintenant.
Et parfois, on ne sait même pas pourquoi. Parce que voilà, c'est un côté un peu chic dans les milieux un peu branchés, je pense.
Très bien. Je ne sais pas si elle est dans un milieu un peu branché, mais en tout cas, elle est dans le milieu des intolérants. Au lactose, Marine est en ligne aujourd'hui. Bonjour Marine, bienvenue sur RTL.
Bonjour.
Vous avez 22 ans, Marine. Et alors, disons, ça fait 11 ans maintenant que vous êtes informée de votre intolérance au lactose.
Oui, je devais avoir 8 ans quand j'ai eu une poussée d'acné, en fait.
C'était précoce.
Oui. Et on s'est inquiété. Du coup, j'ai vu une dermatologue qui m'a dit c'est le lactose. Donc, j'ai eu un régime alimentaire sans lactose. Je vous avoue, j'ai tenu 2 semaines parce que je tenais encore à mon bol de lait.
Tu m'étonnes. Oui, à 8 ans.
Et là, il y a vers mes 18-19 ans, j'ai fait l'erreur de boire un verre de lait comme je le faisais souvent et je me suis retrouvée avec des mal de ventre, avec ça s'est fait par stade. Au début, au tout début, progressivement, j'avais juste des ballonnements, comme si j'avais trop mangé en fait. Après, ça s'est transformé en vraiment nausées. J'étais nauséeuse au possible. Et vers la fin, j'étais recroquevillée en PLS dans mon canapé parce que j'avais mal au ventre, j'étais nauséeuse, j'avais envie de vomir, enfin la totale quoi.
Mais alors justement Marine, vous étiez déjà au courant que visiblement il y avait un problème, est-ce que vous avez consulté un médecin pour ça?
Après non, parce que je me suis souvenu que on m'avait dit que je supportais pas le lait et le fameux 4C, je l'ai fait du coup.
Ah, donc, vous aussi, vous avez constaté, compris, changé et consolidé donc.
C'est ça.
D'accord.
C'est-à-dire qu'au début, je mangeais du fromage, j'adore le fromage, donc j'en suis pas privée. J'ai vu que le fromage de brebis, ça allait, le fromage de chèvre, ça allait quand c'était du fromage. Après, boire un verre de lait, le bol de lait se transformait en verre de lait, en 2 centilitres de lait, j'ai remarqué que c'était le lait, vraiment le lait de vache, au final, que je ne supporte plus, que je ne peux plus en boire. Donc, les gâteaux, c'est fini. Certains gâteaux, en tout cas, c'est fini.
Alors, justement, vous allez nous expliquer dans un instant, sur l'antenne d'RTL, en direct, ce à quoi vous avez été obligée de renoncer, Marine, mais ce que vous avez découvert aussi dans les alternatives, puisqu'on est là pour apporter des solutions à nos auditeurs. Marine, vous ne bougez pas, et nous non plus, donc en toute logique, on se retrouve sur RTL. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour Billy Duck qui tweetait pendant cette émission en direct sur RTL. J'espère ne jamais souffrir d'intolérance alimentaire, mais je pense que c'est comme tout. Après une période d'adaptation, on aménage sa vie et son alimentation. Oui, c'est une question d'aménagement. Et justement, on en parle aujourd'hui avec nos invités. Annie Schwab, directrice de la rédaction du magazine Maxi, qui dans le Maxi de cette semaine vous propose énormément d'alternatives en cas d'intolérance alimentaire. Ariane Grimpa, qui est diététicienne et nutritionniste, qui est créatrice du blog L'Art de Manger. Et auteur d'un ouvrage « La gourmandise ne fait pas grossir ». Youpi ! Ça, c'est chez Carnet Nord. Marine, vous êtes toujours avec nous. Vous nous avez expliqué il y a un instant que vous avez aménagé progressivement, en fait, votre vie et votre alimentation, comme le dit Billy Duck, quand vous avez appris que vous étiez intolérante au lactose. Donc aujourd'hui, vous vous passez de quoi, concrètement ?
Alors, concrètement, ça va être tout ce qui est gâteau industriel.
Ouais.
On va prendre, par exemple, les pains au chocolat qu'on trouve dans les supermarchés.
Ouais,
j'ai remarqué que si j'en mangeais une ou deux, c'était fini. Je me retrouve à faire des crises. Les crêpes maison, tristesse. Les crêpes maison aussi. Il y avait le lait forcément et tout ce qui contient trop de lait au final je peux plus en prendre.
D'accord. Ok. Quelles sont les alternatives que vous avez trouvées à ça alors? Parce que on sent et on va y revenir avec nos invités, c'est que vous avez un peu mené votre propre enquête. Hein. Vous avez fait des tests. Voilà, je suis malade, je fais une crise, donc ça, j'écarte ça. Je peux en prendre en petite quantité. Donc c'est intéressant parce que c'est se connaître soi-même. Vous avez dû à un moment donné chercher des alternatives aussi, des réponses à tout ça.
Oui, bien sûr. Je sais que maintenant, je vais boire du lait végétal. Du lait d'épeautre, du lait d'amande, du lait de riz. Oui, c'est très très bon en plus, hein, ça passe avec tout. C'est vrai que ça n'a pas du tout le même goût du lait, mais c'est une bonne alternative pour continuer de boire du lait et avoir cette sensation, cette impression en fait.
Et toutes ces petites gourmandises là de vous le disiez, de pain au chocolat, de petits gâteaux, tous ces petits trucs qui font plaisir, vous avez été obligé d'y renoncer ou vous avez trouvé d'autres alternatives?
Pour beaucoup, j'ai dû y renoncer, mais c'est pas plus mal d'un côté parce que pendant tout le temps où je m'en suis passée, au final, la sensation de manque est partie, donc Maintenant, ça ne fait plus grand-chose, c'est plus une question d'habitude.
Oui, c'est ça.
Après, bah, ça va être des gâteaux dans le style Belvita ou des trucs comme ça. Donc,
Alors, on va se tourner vers Ariane Grimbach. Alors d'abord, le lactose, il est dans tout ce qui est laitier ?
Alors, le lactose, c'est le sucre du lait, donc il est dans le lait, sauf ce qui existe, qui est le lait sans lactose, on a enlevé le lactose. Donc je pense que la personne, en fait, elle est vraiment, vraiment... intolérante au lait, ce qui veut dire que à la fois le lait qu'elle boit, mais le lait dès qu'il est dans des aliments, même cuit, une quiche, des crêpes, etc. Donc je crois qu'elle a bien compris ça. En revanche, quand on transforme le lait, par exemple dans les yaourts ou dans le fromage, il y a vraiment, enfin ça a été étudié dans les yaourts, des ferments qui digèrent le lactose, et dans le fromage, il y a vraiment des minuscules traces de lactose, ce qui veut dire que même si on est intolérant, mais il faut l'expérimenter, en principe, on peut manger des yaourts et du fromage si on aime le fromage.
Voilà, l'expérimentation, c'est quelque chose d'important parce que ça veut dire qu'on peut ne pas se priver de certaines choses,
c'est,
et il faut faire confiance
essentiel,
à son corps.
Bah, c'est dommage d'exclure si on n'en est pas, si on n'est pas obligé. Donc, il faut vraiment, vraiment, par rapport à tout ce qu'on entend, avoir en tête que chaque personne est différente, chaque personne est unique. Donc le seul moyen, c'est bien sûr qu'il y a des intolérances qu'on connaît, mais il faut expérimenter sur soi.
Marine, expliquez-moi vos crises. Quand vous dites j'ai fait une crise, c'est hyper douloureux ?
Ça s'est fait progressivement, mais plus j'insistais pour continuer de boire du lait, plus ça devenait violent. Donc au début, c'était juste cet effet de ballonnement. Donc, j'avais l'impression d'avoir trop mangé, alors que j'ai bu juste un verre de lait et mangé dans le chocolat. Et au fur et à mesure, à force de forcer, de me dire « mais non, mais ça se trouve, c'est pas ça », juste avant que je fasse les fameux 4C,
les crises, c'est quoi ? C'est vous êtes plié en deux ? Vous pouvez plus marcher ?
Je vais être plié en deux, je vais être un peu en PLS au final dans mon canapé, je vais avoir envie de vomir, je vais être fatiguée, parfois ça m'arrive d'être fatiguée, je vais être pas bien, quoi. C'est un peu comme si j'avais les prémices d'une bonne gastro qui s'annonçait.
Oui, je comprends. Les
douleurs
sont passées.
C'est beaucoup de choses qui fait que c'est désagréable.
Les symptômes de la gastro sans la gastro, c'est pas cool quand même.
Trop arrosé.
Parfois, on sait qu'on y est, donc on se dit bon, maintenant on y va. Mais si en plus c'est sans la gastro.
Probablement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont un déficit en lactase, qui est l'enzyme pour digérer. Probablement qu'elle a une absence totale de lactase qui doit faire que la digestion est très très difficile.
Mais en même temps, Marine, ça s'est déclenché à vos 8 ans, c'est ça ?
Ça s'est aggravé, oui, effectivement, sur des années, en fait.
Oui, c'est ça.
On va revenir sur les diagnostics précoces, parce que c'est hyper intéressant, parce que ça peut arriver au cours de la vie. Oui. Est-ce que ça peut vous tomber dessus avec votre chocolat,
par exemple. Moi, je m'inquiète, tout d'un coup. Hein.
Exactement. Alors, justement, on va revenir sur ces intolérances alimentaires. Est-ce qu'on les découvre et diagnostique tôt ? Est-ce qu'effectivement, elles durent toute la vie ? Est-ce qu'on peut en avoir à tout âge ? Des questions que nous allons vous poser dans un instant sur RTL. Mais on vous remercie, en tout cas, Marine. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée à l'écoute de notre émission et d'RTL. À bientôt.
Merci beaucoup.
Salut Marine, au revoir.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Voilà, alors Nicolas Georgerot, vous l'avez compris, en direct, pendant le Tour de France, qui nous dit à tout à l'heure à 15h. Il y a un petit décalage avec le Tour de France, mais ce sera bien à 16h qu'on le retrouvera pour un prochain point, justement, sur cet événement sportif. Alors, on se retrouve évidemment en direct sur RTL pour parler des intolérances alimentaires. Annie Schwab, vous vous intéressiez à l'âge.
Oui, c'est-à-dire que je pense qu'on arrive à détecter chez les bébés l'intolérance au lactose. Enfin, ça, c'est
très rapidement.
Non, pardon. Ce qu'on détecte souvent chez les bébés, c'est l'allergie aux protéines du lait de vache.
D'accord. Bêtise.
Pardon, Ariane.
Bêtise.
Grosse bêtise d'Annie Schwab. Donc, alors, je retire tout, j'efface tout Ardenne.
Et je recommence.
Pardon, juste pour préciser. L'intolérance au lactose, a priori, c'est chez les adultes, puisque les enfants, ils sont censés boire du lait, donc ils ont la lactase.
D'accord. T'as compris ?
Alors,
t'as compris, Annie ?
Je crois que j'ai compris. Alors, maintenant, la question, Ariane, c'est, par exemple, à notre âge, c'est-à-dire très jeune, que nous sommes toutes autour de cette table, et tous, est-ce qu'on peut se déclarer une intolérance alimentaire alors qu'on n'avait rien avant ? Et comment ça se passe ?
Oui, tout à fait. Alors,
mince !
Le problème,
c'est qu'il
y a des allergies des adultes. Hein, les adultes, ils peuvent développer des allergies à certaines choses qui ne sont pas forcément les mêmes que les enfants. Et les intolérances, si on fatigue beaucoup son organisme, si on fatigue beaucoup son système digestif, si on le fragilise, il s'enflamme, on peut développer des intolérances qu'on n'avait pas. Et l'intolérance au gluten, ce n'est pas forcément quelque chose qui se déclare tôt. On observe aujourd'hui que ça peut se déclarer à des tas d'âges différents.
Ariane Grimbat, qu'est-ce qui se passe si on ne détecte pas ces intolérances et que l'on continue à s'inflammer le système digestif ? Est-ce que ça peut être grave à un moment donné ?
Grave, pas forcément, mais très pénible. C'est-à-dire que si un système digestif enflammé, il va de moins en moins bien digérer. Et puis, c'est très lié aussi à votre système immunitaire. Vous risquez d'être vraiment fatigué, pas bien. Donc, je crois que c'est important. Si on a l'impression qu'on ne va pas bien, que ce soit une fatigue, des maux de ventre, des problèmes de peau, etc., d'essayer de comprendre et de ne pas écarter. Tout n'est pas lié à l'alimentation, mais envisager l'hypothèse de l'alimentation et des possibilités d'intolérance.
Alors, si Annie et moi, on a le sentiment, par exemple, qu'on ait une sensation, une impression d'être intolérant à quelque chose, comment est-ce qu'on le fait vraiment diagnostiquer ?
Comment vous la définiriez, la sensation d'être intolérant ? Vous avez mal au ventre ?
Je sais pas. Par exemple, voilà, Annie, racontez-nous vos ballonnements.
Bon, allez, je me lance. Par exemple, on mange un peu trop de carottes crues parce qu'on adore ça.
Est-ce qu'on est intolérant avec Flavie ?
La super copine.
Pas du tout. Il faut savoir, toujours, quand on mange, il y a la rencontre des aliments et du système digestif. La question des crudités, c'est sans doute qu'on a un intestin un peu sensible.
D'accord.
Et donc, du coup, il y a des choses qui sont un peu plus agressives, comme les aliments complets, comme les crudités, vont provoquer une sensation d'inconfort, mais ça n'a rien à voir avec une intolérance.
Par exemple,
on en mange en petite quantité, il n'y a pas de problème.
Bon, alors admettons, je soupçonne d'être intolérante aux œufs. Comment est-ce qu'on va me détecter mon intolérance ? Je vais voir un allergologue ?
Alors, on peut faire effectivement des examens, on peut aller chez un allergologue et pas faire un test sur Internet pour vérifier toutes les intolérances qu'on a. Il y a des tests complètement bidons sur Internet, donc il ne faut vraiment pas faire ça. Et effectivement, il va vous sortir des choses. Alors, des fois, la liste, elle est un peu exagérée. C'est-à-dire qu'après, ça donne des directions, mais ça vaut quand même la peine de vérifier si en petite quantité on supporte certaines choses. La question des œufs, elle est très complexe parce qu'il y a le blanc, il y a le jaune, il y a l'œuf cru, il y a l'œuf cuit, il y a l'œuf en petite quantité dans certaines préparations, en grande quantité. Et ça, c'est vraiment quand même en testant qu'on va se rendre compte ce qu'on supporte ou pas.
Est-ce qu'on peut avoir des intolérances alimentaires à tout ?
Non.
Est-ce que je peux être intolérante au persil et pas à la coriandre ? Est-ce qu'il y a des grandes familles d'intolérance ?
Il y a quand même des grandes familles. Et puis, alors, on peut quand même avoir un inconfort global. C'est-à-dire, si on a beaucoup fragilisé son intestin, qu'on l'a beaucoup irrité, beaucoup agressé, on peut avoir l'impression qu'on a un petit peu mal au ventre tout le temps. Donc là, il y a des... Aujourd'hui, on parle aussi de tous les aliments qui fermentent dans l'intestin. Donc, il y a des protocoles où on peut essayer d'enlever certains aliments, de les remettre. On peut aussi renourrir un petit peu sa flore intestinale parce que ça joue aussi dans l'inconfort. Il y a de toute façon beaucoup de choses à faire pour essayer d'aller mieux.
Annie, je sens que vous allez nous parler de vos ballonnements, mais on va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien.
On va se retrouver tout de suite en
direct sur RTL. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
On a une petite pensée particulière pour Julien Farré qui nous est fidèle et qui nous explique à quel point il ne souffre d'aucune intolérance quand il s'agit d'écouter RTL. Il mange du RTL à longueur de journée. On parle des intolérances alimentaires cet après-midi sur RTL en compagnie donc d'Annie Schwab du magazine Maxi et d'Ariane Grimbat qui est diététicienne et nutritionniste. Annie Schwab, vous aviez une question pour Ariane.
Oui, j'avais une question pour Ariane. C'est-à-dire que quand on parle des symptômes, la fatigue, les ballonnements... les maux de ventre, etc., l'acné, machin, etc. Finalement, il y a plein de femmes, plein d'hommes qui peuvent se dire « Bon, moi, j'ai forcément une intolérance. » Donc, comment vous arrivez à classifier tout ça, quoi ? Et surtout, à quel moment il faut qu'on aille voir un médecin
Il y a plusieurs choses, effectivement. Si on a des ballonnements, c'est très important de prendre le temps de comprendre pourquoi. Donc, moi, je procède par étapes. C'est-à-dire, je vérifie d'abord que la personne, elle sait s'arrêter de manger quand elle a plus faim et qu'elle n'est pas ballonnée parce qu'elle a mangé deux fois trop.
Oui.
Après, est-ce qu'elle mange lentement ? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont super pressés tout le temps, donc ils ont tendance à avaler sans mâcher, etc. Et donc, il faut savoir que la digestion, elle commence dans la bouche. Donc, vérifier que ils mâchent bien, qu'ils sont bien. Et une fois qu'on a évacué ces deux choses-là, si vraiment il reste des ballonnements, là, bah, il faut un carnet alimentaire un peu précis pour essayer d'observer avec quoi ils sont ballonnés. Il ne faut pas accuser que le gluten, le lactose. On peut être ballonné parce qu'on mange trop de crudités et qu'on a un intestin sensible. Aujourd'hui, on parle beaucoup du syndrome de l'intestin irritable, hein, qui est l'autre nom de la colopathie fonctionnelle. C'est des personnes qui ont un intestin sensible. Et du coup, il y a tout un tas d'aliments qu'ils digèrent mal et il faut vraiment expérimenter parce qu'il n'y a pas de règle absolue, mais ça peut être certains légumes, certains fruits et du coup, en enlevant certains aliments, on peut aller mieux sans forcément guérir complètement de cette fragilité.
Alors d'abord, c'est irréversible une intolérance. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut restaurer sa flore intestinale?
Il y a beaucoup de recherches et de réflexions là-dessus, on peut l'améliorer.
D'accord.
Mais si on a vraiment un intestin sensible, on risque de garder cette fragilité quand même, mais on peut apprendre à bien vivre avec.
Bon, en tout cas, bien vivre avec, c'est aussi connaître les alternatives qui nous sont proposées pour chacun des aliments que l'on doit supprimer. En réalité, certains ont le sentiment qu'une intolérance alimentaire, bah, c'est forcément se priver de quelque chose, alors que ça peut être aussi l'occasion de transformer l'épreuve en découvrant donc de nouvelles saveurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut répondre à toutes les intolérances alimentaires ?
Oui, pour reprendre les gants, il y a beaucoup d'alternatives avec ce qui doit plus s'appeler les laits, mais les jus végétaux qui peuvent vraiment remplacer le lait dans tout ce qui est la cuisine et qui peuvent avoir des goûts très agréables.
On ne dit plus lait d'avoine, on ne dit plus lait d'épeautre, maintenant c'est le jus.
Voilà, exactement. Après, tout ce qui concerne le gluten, maintenant il y a une grande variété, mais il faut savoir que si on a juste une sensibilité au gluten, si on trouve du pain qui est fait au levain avec du blé qui n'a pas été trop standardisé, on peut digérer du pain normal et sinon on peut trouver des alternatives à base de farine de châtaigne, de sarrasin, etc. Et les œufs, je pense que vous allez en parler, il y a tout un tas de façons astucieuses de remplacer les œufs dans les préparations.
Alors, c'est-à-dire, vous pouvez répondre à cette question sur les œufs ou pas, Annie Schwab ?
Non, mais les œufs, c'est vrai que moi, je suis pas du tout intolérante, je mange beaucoup d'œufs.
La question piège.
Mais c'est vrai qu'on peut, on peut les remplacer. Il y a des alternatives, de la fécule en guise de liant, de fécule de maïs, la maïzena, fécule de pommes de terre, etc.
C'est pour ça que l'agar-agar,
au lieu de mettre dans des flans des œufs, on peut mettre de l'agar-agar, il y a des gélifiants naturels, etc. Je pense qu'on peut trouver
la difficulté, voilà, on voit bien que c'est pour ça que c'est important de comprendre et de tester et vérifier si on doit vraiment enlever les œufs, parce que faut voir que les œufs, ça apporte du liant, ça apporte du gras, ça apporte du gonflant, etc. Donc finalement, il faut plein de choses pour remplacer l'œuf. Donc il faut vérifier qu'on a vraiment besoin de le faire et effectivement, mais si on a besoin, on peut avoir des alternatives sympas.
Oui, après, je pense que aussi ce petit côté qui a assez tendance de changer pour faire les choses soi-même avec des choses plus naturelles. Enfin, l'œuf est naturel, mais voilà, je pense qu'il y a aussi une petite tendance comme ça à vouloir jongler avec des substituts.
On a des questions qui nous sont posées sur le sans gluten, Annie Schwab. Alors justement, est-ce qu'on peut faire un point sur le sans gluten ? Parce qu'il y a des céréales qui sont avec gluten, et il y a des céréales qui sont sans gluten. Est-ce qu'on peut le rappeler à nos auditeurs ?
Alors, en fait, il y a une petite liste. On peut se mettre ça sur un petit post-it, se le coller sur son frigo. Donc, les céréales avec gluten, c'est le blé, le seigle, l'orge, l'épeautre et l'avoine. Et les céréales sans gluten, il y a le riz, le sarrasin, le maïs, le quinoa, le millet, le manioc ou encore le tapioca.
D'accord. Voilà. Donc, ce qui nous permet aussi, par exemple, pour ceux qui sont intolérants au gluten, je pense aux pâtes. Il y a des pâtes sans gluten qui sont les pâtes asiatiques aujourd'hui.
Oui, les petites nouilles et les nouilles de riz qui sont très bonnes, d'ailleurs.
Absolument. Ouais.
Donc, on peut je pense qu'on peut jongler aujourd'hui. En plus, je pense qu'on en trouve quand même dans toutes les grandes surfaces, moyennes et grandes surfaces. Donc, c'est des petites nouilles, des spaghettis tout fins, ou des nouilles soba qui sont à base de sarrasin. Il faut toujours bien vérifier sur l'étiquette quand même.
Les soba, il y a souvent 20% de blé, donc il faut vraiment faire attention.
C'est pour ça qu'il faut vérifier. Ouais.
On se retrouve, si vous le voulez bien, dans un instant sur l'antenne d'RTL. On a Valérie qui nous a posé une question sur l'hérédité. Vous allez y répondre dans un instant. A tout de suite.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Merci d'être avec nous. Il nous reste encore...
assez de temps pour pouvoir poursuivre et boucler notre conversation sur les intolérances alimentaires en compagnie donc d'Ariane Grimbach et d'Annie Schwab. Valérie qui nous écrit que sa maman est intolérante au gluten, elle a des maux de ventre, elle a des boutons. Depuis qu'elle a banni le gluten, elle se sent beaucoup mieux. Peut-on être intolérant au gluten par hérédité ? Ariane Grimbach.
Alors, je crois que tout ça est extrêmement complexe. Je ne pense pas qu'il y ait d'hérédité et de fatalité à avoir une intolérance qu'avaient les parents. Peut-être qu'il y a une part génétique qu'on connaît plus ou moins, mais en tout cas, il n'y a aucune fatalité et les enfants ne transportent pas tous les maux de leurs parents. Il n'y a pas à s'inquiéter de ça.
D'accord, très bien. Ingrid qui nous précise qu'elle a dû arrêter le gluten par obligation, pas par effet de mode. Elle a perdu 16 kilos en 5 mois. Ça veut dire qu'un changement alimentaire est souvent accompagné d'une grosse perte de poids ?
C'est très complexe. Évidemment, si elle mange énormément de produits avec du gluten et beaucoup de pain, de pâtes, de pizza, etc., et qu'elle a renoncé à tout ça sans avoir de vrais compléments, elle a perdu du poids. Ce qui se passe souvent, pourquoi les gens disent qu'ils vont mieux, c'est parce que comme il y a du gluten dans énormément de produits industriels, ils se mettent à changer vraiment leur alimentation, à cuisiner davantage, à avoir une alimentation plus saine, donc ça joue aussi dans le mieux-être. C'est peut-être pas que l'arrêt du gluten.
Voilà. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller sur les replays d'RTL pour écouter nos émissions qu'on a fait dernièrement sur justement l'alimentation, sur trop de sel, trop de sucre, et on se rend compte à quel point les produits industriels en sont gavés et bourrés. Qu'est-ce qu'il y a, Annie Schwab? Vous me regardez en souriant.
Flavie, je vous écoute absolument religieusement, et moi j'avais une petite recette à proposer à tous nos auditeurs et éditrices. C'est que le matin, au lieu de faire par exemple des tartines de Nutella pour les grands qui sont encore de grands gourmands, vous faites une petite tartine avec de la purée d'amandes ou de noisettes qui s'étale parfaitement sur le pain, et à l'heure par exemple de l'apéro, au lieu de se bourrer de cacahuètes, eh ben, vous pensez au beurre d'avocat maison, c'est-à-dire que vous mixez vous-même un petit avocat bien mûr, un petit peu de crème de soja et quelques gouttes de citron, et c'est juste absolument délicieux. Et Ariane va peut-être me contredire, mais c'est bien, non ?
C'est super, et c'est super bon surtout.
Donc ce sera à 19h chez Annie Schwab ce soir.
Alors ce soir, je vous invite tous.
Parce que moi, je préfère venir le soir que de prendre le petit-déj avec vous.
C'est pas gentil, ça, Flavie.
Non, mais je préfère l'apéro, c'est plus sympa. À consommer avec modération, bien évidemment, cela va sans dire. Ah bah tiens, on pourrait aussi prendre un apéro au kéfir. On nous parle de cette boisson qui vient de Turquie, je crois, justement, Marie-Christine. C'est Marie-Christine qui nous en parle, justement. Est-ce que le kéfir, cette boisson fermentée, peut répondre à des intolérances alimentaires ?
Répondre, c'est, ça serait complexe
parce
de dire
c'est
ça.
Une alternative.
Mais en tout cas, le kéfir, c'est une boisson fermentée. Tous les aliments fermentés, et donc les boissons, apportent des bonnes bactéries à notre intestin, donc peuvent contribuer à un meilleur confort intestinal.
D'accord, ok. Donc ne pas hésiter. De toute façon, on teste.
Exactement. Il faut voir si on aime ça, déjà. Parce qu'il
ne
faut pas faire des choses par obligation si après...
Oui, il y a le plaisir quand même.
Le plaisir est essentiel parce que c'est ça qui va permettre de le faire dans la durée. On teste, mais apporter effectivement des aliments fermentés à son intestin est quelque chose qui est bon pour la santé.
Pas mal de monde nous parle des farines. Et en fait, en réalité, il faut savoir mélanger les farines. Il ne faut pas hésiter à être un peu apprenti sorcier lorsque l'on fait un gâteau à la gommesse.
Voilà, absolument. Donc, plutôt que de la farine de blé, on peut en fait prendre des farines comme des farines de riz, de sarrasin, de châtaigne, de maïs ou de coco. Et en fait, l'idée, c'est que vous pouvez très bien en acheter 3 ou 4 paquets de farines différentes quand vous faites vos petites courses. Et en fait, vous vous amusez à panacher pour trouver, en fait, comme disait Ariane, le mélange qui vous convient le mieux. Donc, en plus, c'est sympa, ça fait explorer des goûts différents et puis on joue un petit peu à l'apprenti sorcier.
Voilà, et l'intérêt quand même de pouvoir détecter ces intolérances alimentaires est résumé dans le message d'Audrey qui est concernée par le sujet. Je suis en plein changement d'alimentation car des intolérances m'ont vraiment gâché plusieurs années de mon existence. J'ai une forte intolérance au gluten, une intolérance au lait. Je me suis aperçue moi-même et non les médecins. Les troubles sont impressionnants, nous écrit-elle. Maux de tête fracassants, nausées, douleurs abdominales, gaz, ballonnement, empêchant toute activité. Et là, je suis enfin en train de revivre, nous écrit-elle en lettres capitales, car j'ai modifié mon alimentation et mes symptômes ont tous disparu. On a une tendance aussi parfois, vous savez, à lutter, quoi, être un peu en résistance. Est-ce qu'il faut savoir écouter son corps, Ariane Grimbach ?
C'est fondamental d'écouter son corps, et justement l'écoute, c'est pas du tout mal, et de se rendre compte qu'on va pas bien. Et si si on est à un âge où on devrait être en bonne forme, qu'on a une bonne hygiène de vie, si on a tous ces maux, évidemment qu'il faut s'en occuper. Je pense que cette personne devait avoir une vraie intolérance au gluten, c'est-à-dire ce qu'on appelle la maladie cœliaque, et donc effectivement dans ces cas-là, il est impératif d'éviter le gluten, et du coup comme l'intestin est endommagé, ça peut déboucher effectivement sur l'intolérance au lactose aussi.
Annie Schwab, le mot de la fin?
Le mot de la fin, c'est que des bonnes nouvelles, tout ça.
Oui.
En fait, c'est qu'il y a plein de remèdes efficaces. Et puis, quand même, moi, je dirais que si vraiment on n'y arrive pas, il faut quand même aller consulter, quoi.
Voilà, il ne faut pas hésiter à consulter pour ensuite revoir donc, son alimentation. Il y a Caroline qui nous écrit qu'elle a eu des intolérances temporaires. Ça existe, ça? Rapidement,
est-ce que c'était des intolérances? C'était peut-être une sensibilité, c'est-à-dire que l'intestin, la flore intestinale, c'est un monde très complexe. Et si on a des traitements, par exemple, si on prend beaucoup d'antibiotiques à un moment donné, ça peut vraiment détruire la flore et créer des ballonnements, des inconforts. Et puis après, ça se remet. Donc ça peut être une des explications éventuellement.
On se retrouve dans un instant. Je vais vous parler du super programme de demain. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Eh bien voilà, il nous reste à nous dire au revoir, Annie Schwab, et à nous dire à la rentrée,
bonnes vacances.
Merci beaucoup, on va partir avec notre magazine Maxi sous le bras, puis on va être fidèle à tous les conseils de votre magazine.
Plein de choses très sympas.
Bon génial, merci beaucoup en tout cas
pour
cette belle saison qu'on a passée ensemble.
Un plaisir renouvelé.
Rendez-vous en septembre sur RTL, et donc je rappelle le magazine Maxi en kiosque tout l'été qui va vous accompagner, n'hésitez pas. Merci beaucoup Ariane Grimbach.
C'était un plaisir.
Voilà, bel été à vous aussi.
Merci
et puis
beaucoup.
Je rappelle pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient aller au-delà encore de nos échanges aujourd'hui, votre ouvrage « La gourmandise ne fait pas grossir », une diététicienne qui dit non aux dictats alimentaires, c'est chez Carnet Nord et c'est super intéressant. Et puis « L'art de manger », c'est votre blog, donc
c'est
vous
mon
y
blog
donnez des conseils.
J'écris beaucoup de réflexions autour de l'alimentation en étant toujours dans le plaisir et la déculpabilisation.
L'alimentation d'ailleurs qui fera l'objet des vacances sur RT. Puisque vous pourrez retrouver une émission tous les jours entre 11h et midi qui sera justement consacrée à l'alimentation présentée par Jean-Michel Zeka. Mais on n'en est pas là, voilà, puisqu'on se retrouve demain dès 15h et notre invité sera Sébastien Destremont. Vous voyez qui c'est, Annie? Sébastien, en fait, il est arrivé dernier du Vendée Globe après 124 jours de galère.
Bien sûr,
jamais
bien
Sébastien sûr. N'a abandonné. Avec lui, nous parlerons de notre volonté et du dépassement de soi. Ce sera à 15h avec vous demain en direct sur RTL. Tout de suite, ce sont Laurent Ruquier, les grosses têtes qui s'occupent de vos zygomatiques. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.
Vous écoutez RTL.